Christelle Rebière pour le journal. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une radiographie des blessures d'une victime du Bataclan mise aux enchères et l'indignation du patron des hôpitaux de Paris et sanctions à suivre. On y revient après les autres titres, Christelle.
Il se veut le chantre de l'Union des droits. Éric Zemmour a mis en avant ses nouveaux ralliés hier soir à Cannes. Le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français avant la présidentielle. Nous verrons comment consommer moins et plus malin pour réduire notre facture de carburant. Dans ce journal, les Anglais qui accusent la Russie de chercher à installer un dirigeant pro-russe en Ukraine. Quand la pop se fait symphonique, c'était hier soir à la Maison de la Radio et de la Musique avec Clara Luciani dans l'Hyper Weekend Festival. Lui, il a joué sa partition, mais ça n'a pas suffi. Le Français Cyril Gane a été battu cette nuit à Los Angeles. Le Camerounais Ngannou reste champion du monde des lourds en arts martiaux mixtes. On y viendra tout à l'heure dans le journal des sports.
Et dans 20 minutes, l'Europe, changer ou périr, c'est le titre du livre de notre invité à venir, Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors.
France Inter.
Abject. Le mot a été lâché par le patron des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch. Un chirurgien parisien vient de mettre en ligne sur un site de vente aux enchères la radiographie d'une partie du corps de l'une des victimes des attentats du 13 novembre. Elle était au Bataclan, il l'avait soignée cette nuit-là. C'est Mediapart qui a révélé l'affaire, alors que l'on est en plein procès de cette tragédie depuis presque 6 mois. Morgane Klein-Refait.
La radio d'un avant-bras avec une balle de Kalachnikov logée dedans. C'est celui d'une jeune patiente victime de l'attentat au Bataclan qui a perdu à ce moment son compagnon, précise l'annonce. Le médecin de l'hôpital Pompidou qui l'a posté sur un site de vente aux enchères dit avoir opéré 5 victimes la nuit du 13 novembre 2015. Voilà qui suscite la colère du patron des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch. Cet acte est contraire à la déontologie et met en cause le secret médical, a-t-il écrit hier soir dans un mail ensuite posté sur les réseaux sociaux. C'est d'autant plus abject, estime-t-il, au vu de ce qu'ont enduré les victimes de ces attentats. Martin Hirsch indique qu'il va saisir le Conseil de l'Ordre et les ministres qui disposent d'un pouvoir disciplinaire. Il compte également faire un signalement à la justice.
Nous actionnerons toutes les voies de droit possibles, précise effectivement Martin Hirsch, le directeur général de l'APHP sur Twitter.
En politique, il ne progresse plus dans les sondages et pourtant il continue d'attirer.
Éric Zemmour a affiché ostensiblement hier soir en meeting à Cannes ses prises de guerre chez les Républicains ou au Rassemblement National. Et fort de ses nouveaux soutiens, le candidat a mis en avant l'union des droites qu'il espère bien incarner, Adrien Becht.
Sur la scène cannoise, la photo de famille ne compte pour l'heure que quelques membres de la droite. Deux ex-RN, un ex-LR, Philippe de Villiers, mais elle se veut la devanture de l'union. L'ancien LR, Guillaume Pelletier, s'en réjouit déjà.
Pendant 40 ans, la vieille gauche et la fausse droite nous ont empêchés de nous parler. Et aujourd'hui, grâce à un homme, nous sommes ensemble dans la grande maison commune.
Tellement commune que l'eurodéputé Jérôme Rivière, venu des rangs RN, arrive avec un slogan bien connu des meetings du Front National.
On est chez nous.
De quoi tenter de faire vibrer les cœurs frontistes. D'ailleurs, le rallié ne cogne pas sur Marine Le Pen, lui rend un hommage au passé.
Je lui reconnais et je lui suis gré d'avoir tenu le camp national pendant longtemps. Seule, elle a tenu ce drapeau.
Façon de ringardiser la candidate sans la critiquer, Éric Zemmour, lui, ne la cite pas et tente la prophétie autoréalisatrice.
L'appel des victoires, c'est l'appel à abolir ce fameux et funeste cordon sanitaire. Unissons nos forces.
Avec l'espoir de retrouver de l'air dans les sondages pour enfin aller chercher ce qui lui sera indispensable pour concrétiser son union des droites des électeurs.
L'union toujours, mais cette fois du côté de Valérie Pécresse, elle a reçu l'aval de 2 partis centristes en défendant hier un grand écart avec un programme de rupture revendiqué, mais qu'elle juge quand même compatible. À gauche, lors de son meeting hier, Anne Hidalgo a dénoncé les prophètes de malheur qui, dit-elle, voudraient qu'elle se résigne devant la difficulté. Elle compte bien aller jusqu'au bout. Et le pouvoir d'achat reste la préoccupation principale des Français pour cette élection. Les prix de l'énergie plombent nos budgets. La semaine dernière, le gazole a franchi la barre symbolique des 1,60€ le litre en moyenne, soit 20% de plus que l'an dernier. Alors dans ces conditions, comment faire des économies petites ou grandes? Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour.
On a besoin de conseils. Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture, il y a quand même des solutions.
L'une des meilleures façons de réduire la facture reste l'éco-conduite, ne pas démarrer trop fort, utiliser le frein moteur, rouler trop vite surconsomme du carburant, de même que de rester coincé longtemps dans les embouteillages. Les constructeurs l'ont bien compris, de nombreux modèles sont équipés d'un système qui coupe le moteur lors d'un arrêt prolongé. Sans ça, vous pouvez le faire vous-même, mais pour des arrêts plus longs qu'un simple feu rouge. L'aérodynamie joue aussi, attention aux valises sur le toit qui ralentissent l'automobile.
On peut aussi agir, Mathilde, sur la mécanique de nos voitures.
Oui, savez-vous qu'un pneu sous-gonflé consomme plus d'essence? Des filtres encrassés impactent la performance. On peut aussi s'équiper d'un boîtier pour passer au bioéthanol. Et puis c'est un peu technique, mais il vaut mieux éviter de rouler sur la réserve ou presque, car il y a plus d'impuretés au fond, explique Francis Pousse. Il est président des distributeurs de carburant au sein du Conseil national des professions de l'automobile.
Il vaut mieux faire un plein régulièrement quand vous en avez besoin, plutôt que de faire des petits appoints. Puisque sur les moteurs haute pression maintenant, une partie du gasoil qui n'est pas brûlé à l'instant T dans le véhicule, qui retourne au réservoir, hein, c'est normal, sauf que ce gasoil revient à une température importante puisqu'on l'a compressé. Plus vous avez de carburant dans le réservoir, plus ça va diluer la température du gasoil et éviter qu'il monte trop en température. Et c'est cette température trop élevée qui génère tout un tas d'impuretés, etc., etc.
Une idée veut aussi qu'en remplissant tout doucement son réservoir, on éviterait la légère mousse de l'essence qui joue sur la consommation. C'est faux, répond Francis Pousse.
Merci Mathilde. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, réfléchit à de nouvelles aides, surtout pour ceux qui ont besoin de leur véhicule pour se rendre au travail. Pourquoi pas un relèvement du barème du forfait kilométrique ou bien une déduction de ses impôts. Encore un élu de la majorité agressé par des antipasses. Le député LREM de Perpignan, Romain Gros, a vu sa permanence attaquée. Il a reçu un coup de poing au visage. Il va porter plainte. La mobilisation des antis s'est effritée hier encore. Environ 38 000 manifestants dans toute la France, d'après le ministère de l'Intérieur. C'est demain que le pass vaccinal entrera en vigueur dans notre pays. Il faudra présenter un schéma vaccinal pour entrer au restaurant ou dans un stade. Les tests ne seront plus acceptés.
À l'étranger, décidément, rien n'apaise les tensions autour de l'Ukraine.
On avait cru hier à une détente entre la Russie et les États-Unis. Cette fois, ce sont les Anglais qui accusent. Londres affirme que Moscou cherche à installer un dirigeant pro-russe à Kiev pour mieux ébranler l'Ukraine avant de l'occuper. Les services de renseignement auraient même des liens étroits avec de nombreux anciens dirigeants. La Russie s'indigne, Jean Cassé.
La désinformation répandue par le gouvernement britannique est une nouvelle preuve du fait que ce sont les pays de l'OTAN, et tout spécialement les anglo-saxons, qui font escalader les tensions autour de l'Ukraine. La réponse du ministère russe des Affaires étrangères aux accusations du Royaume-Uni, selon lesquelles Moscou préparerait un changement de régime à Kiev, le remplacement du président Zelensky par un dirigeant pro-russe, ne s'est pas fait attendre, et son ton est bien peu diplomatique. Nous appelons la diplomatie anglaise, conclut le communiqué, à cesser ses provocations, cesser de répandre des inepties et à se concentrer sur l'étude des invasions tataro-mongoles, une référence sarcastique à une remarque historique incorrecte de la ministre anglaise des Affaires étrangères plus tôt cette semaine. Manière avec ce ton ouvertement méprisant de faire passer un message, le Royaume-Uni ne comprend rien à l'Ukraine, son avis est quantité négligeable et la Russie ne parlera d'égal à égal qu'avec les États-Unis. Moscou, Jean Casset, France Inter.
En Syrie, des combats entre les forces kurdes et les djihadistes de l'État islamique ont fait 90 morts ces trois derniers jours. Tout a commencé par l'attaque d'une prison abritant des djihadistes. Les Kurdes ont poursuivi ceux qui ont réussi à s'échapper. Face aux violences, des milliers de civils ont dû fuir. Depuis 1945, elle nous vend des stylos, des briquets, des rasoirs. Mais la marque Bic continue à se diversifier. Et pour rester incontournable aussi au XXIe siècle, elle se lance dans le tatouage éphémère. Bic vient de racheter le Canadien Inkbox, Agnès Soubiran.
C'est finalement assez logique. Sur une peau rasée de près, l'envie peut être forte de dessiner une abeille ou un papillon. Best-seller parmi les 10 000 dessins que propose le site canadien à ses 800 000 clients, en majorité américains. Bic s'était déjà aventuré sur ce terrain-là il y a 4 ans en proposant un stylo pour un tatouage à durée de vie très limitée, pas plus de 3 jours. Cette fois, les tatouages durent jusqu'à 15 jours et remportent un gros succès auprès des 18-24 ans. Le chiffre d'affaires a doublé en 2 ans et même si l'entreprise n'est pas encore rentable, cela permet à Bic de se positionner sur un marché porteur et surtout d'accentuer sa présence sur le net. La marque 100% digitale permet d'ores et déjà à Bic de passer le cap des 10% de ventes sur la toile. Le rachat l'an dernier de la start-up américaine Rocketbook, qui propose des cahiers de notes réutilisables et connectés, a permis à l'entreprise française de se roder. Une diversification rendue possible par un ménage fait dans ses secteurs traditionnels depuis un an, avec notamment la réduction de références pour mieux gérer les stocks.
Et sachez qu'il faut compter, si vous êtes intéressé, 10 à 25 dollars pour un tatouage éphémère. La grenade, elle a été dégoupillée en version symphonique hier soir à la Maison de la Radio et de la Musique. C'était l'un des moments forts de l'Hyper Weekend Festival qui s'achève aujourd'hui. Clara Luciani a chanté sa grenade et le reste avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Mathieu Culeron.
Un public debout pour célébrer la version symphonique de la musique de Clara Luciani, la chanteuse très émue à la fin de son concert dans l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique.
Je réalise pas trop ce qui s'est passé, j'ai envie d'y retourner, c'était trop court quoi. C'est très puissant parce que je crois que quand on écrit des chansons, surtout moi vous savez je suis pas tellement musicienne quoi, j'écris des chansons avec quelques accords tout ça, cet envol c'était super émouvant, je me souvenais de leur balbutiement quoi, de leur squelette et je me disais mais comment est-ce qu'elles ont... puis en arriver là, c'est... Voilà, c'est très émouvant.
Place à la musique.
Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio France et grand initiateur de cet Hyper Weekend Festival, est ravi de l'énergie dégagée par un public venu nombreux.
L'Agora avec Jean-Michel Jarre, le 104, l'Auditorium, tout ça fonctionne. Ce sont des spectacles très différents et tout ça fonctionne avec joie. Des petites histoires dans la grande histoire de cette première édition avec November Ultra, énorme révélation. Ce soir, Clara Luciani qui a vraiment mis tout le monde d'accord. C'est vrai que ça fait partie aussi de l'énergie très particulière des festivals.
L'édition 2 de l'Hyper Weekend Festival aura bien lieu l'année prochaine, les 20, 21 et 22 janvier.
C'est quand même assez sublime, Eric.
C'est symphonique.
Et ce soir, on retrouve la création d'Alex Baupin autour de Serge Gainsbourg, Francky Gogo, Superpose et la nouvelle scène qui rendront hommage aux 30 ans de carrière de Dominique A. La disparition d'un véritable baroudeur des mers. À 75 ans, Jean-Jacques Savin était parti du Portugal le 1er janvier dernier pour traverser l'Atlantique à la rame. Son corps a été retrouvé dans son embarcation, retourné au large des Açores. Il voulait narguer la vieillesse et ne se fixait aucune limite.
À suivre, de la castagne et du tennis dans le journal des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Bon, en MMA, comme prévu, le combat a été acharné, mais le Français n'a pas créé l'exploit.
Oui, alors MMA, tous les coups, ou presque, sont permis. Oui. C'était un combat très attendu, effectivement. Et le Français Cyril Gane, près de Los Angeles, a manqué son défi. Il vient de s'incliner face au champion des poids lourds, Francis Ngannou, qui conserve donc son titre. Retour sur le parcours de ce combattant, mais décidément hors norme, avec Loïc Piala.
Son incroyable histoire continue. Migrant arrivé en France du Cameroun, Francis Ngannou a passé un an à vivre dans les rues de Paris avant d'être repéré et initié aux arts martiaux mixtes. Doté d'une force de frappe hors du commun, il est parti tenter sa chance aux États-Unis et dans l'UFC, ce qui se fait de meilleur dans ce sport. Sacré champion du monde en mars 2021, il a défendu sa ceinture face à Cyril Gane, un temps son partenaire d'entraînement à Paris. Le Français, spécialiste de Muay Thai, a fait mieux que la plupart de ses prédécesseurs. Ngannou restait sur 5 KO lors de ses 5 derniers combats avec en tout moins de 9 minutes passées dans l'octogone. Gane, technique et mobile, l'a poussé au bout des 5 rounds. Mais en face, Ngannou, redouté pour son punch, l'a dominé au sol, montrant qu'il était plus qu'un simple concentré de puissance. Le champion du monde pourrait défendre une nouvelle fois son titre s'il renouvelle son contrat avec l'UFC. Il rêve aussi de s'essayer à la boxe anglaise, encore plus rémunératrice que le MMA. À Anaheim, Loïc Piala pour France Inter.
Ouais, s'il s'essaye à la boxe anglaise, ça risque de faire très mal. Je pense que les adversaires peuvent commencer à se préparer ou à aller se cacher comme ils veulent.
Bon, au tennis, c'est plus apaisé quand même, plus gentleman. Hein. Mais sans surprise, Adrian Manarino n'a rien pu faire contre Rafael Nadal à l'Open d'Australie.
Non, il n'ira pas en quart de finale. Défaite en 3-7, 7-6, 6-2, 6-2. Adrian Manarino en plus blessé aux adducteurs. A noter aussi ces dernières heures, l'élimination du numéro 3 mondial Alexander Zverev, battu par le russe Denis Chapovalov. Cap maintenant côté français sur le huitième de finale de Gaël Monfils qui ne va pas tarder à commencer. Face à lui, le Serbe Noumir Kepkanovic, un joueur a priori à la portée de Gaël Monfils mais qui ne cesse d'étonner depuis le début du tournoi, marqué par l'expulsion de Novak Djokovic. Et on dirait qu'il a décidé de reprendre le flambeau, Fabrice Abgral.
Miomir Kecmanovic ne cesse de le répéter haut et fort, s'il est à Melbourne, c'est pour venger Novak Djokovic, son idole et son ami. Le Serbe trouve l'expulsion du numéro 1 mondial injuste et disproportionnée. Alors, il joue pour lui, comme s'il était en mission. Kecmanovic est âgé de 22 ans, il est 77e mondial et il vient de passer 3 tours à Melbourne, ce qu'il n'avait jamais réussi jusqu'à présent en Grand Chelem. Gaël Monfils n'avait pas besoin de savoir tout ça pour redouter le Serbe, d'abord parce que le Parisien l'a battu difficilement l'an passé à Bercy et ensuite parce qu'il a déjà eu l'occasion de faire des matchs d'entraînement contre lui et ça s'est toujours très mal passé.
C'est qu'à l'entraînement et tout, il m'a toujours battu, tu vois. Ce sera pas un match facile, ce sera pas un match facile. Il se pose pas beaucoup de questions, tu vois, il rentre bien dans ses coups, coup droit, revers, il a un meilleur revers, je pense. Il agresse bien, il a rien à perdre aussi, donc tu vois, je pense qu'il a envie de bien faire. C'est un jeune qui monte bien, qui joue bien, c'est un gros match encore, quoi. C'est un gros match.
Gros match peut-être, mais Gaël Monfils est très impressionnant depuis le début du tournoi. Il n'a toujours pas perdu le moindre set, et s'il en gagne 3 de plus demain, il se hissera pour la 10e fois de sa carrière en quart de finale en Grand Chelem, la 2e fois à Melbourne, la première. C'était en 2016.
Et Gaël Monfils, donc, qui va bientôt rentrer sur les courts. Et on suivra son match, évidemment, aux côtés de Fabrice Abgral sur les terrains de football. C'est la 22e journée de Ligue 1. Et l'Olympique de Marseille pointe à la 2e place du classement ce matin. Après une victoire sur Lens, 2-0. Les Lyonnaises, elles sont toujours en tête du championnat féminin. Grâce à une victoire sur Montpellier, 3-2, avec un doublé de Grijembok. Les Parisiennes, 2e du classement, le Paris Saint-Germain, se déplacent aujourd'hui à Saint-Étienne.
Et puis c'est la fin de l'état de grâce des handballeurs français au championnat d'Europe.
Et oui, première défaite hier soir face à l'Islande et une défaite assez sévère, 29-21. Ça va compliquer la tâche des Bleus pour accéder aux demi-finales. Mais il reste 2 matchs dans le tour principal pour rectifier le tir. Le prochain rendez-vous, c'est demain contre le Monténégro.
Et on espère que le Covid les laissera un peu tranquilles. Oui. Merci Laetitia.
Laetitia Bernard dans le journal de Christelle Rebière. Le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Un temps un peu comme hier, hein, Jean-Michel Gonaski.
Les conditions restent identiques d'un jour sur l'autre, avec un ciel souvent bouché sur la moitié nord du pays et un franc soleil dans la partie sud du Poitou-Charentes aux Pyrénées et du sud Auvergne au Jura en descendant vers la Méditerranée. Dans la partie nord, on notera la possibilité d'une installation en cours de journée de trouées, en particulier du Finistère au Pays de la Loire et du Morvan à l'Alsace, avec des gelées fréquentes au lever du jour pour les régions du sud, vers moins 3 à moins 5 degrés quasi gelées. Réalisé au sud de la Garonne. Cet après-midi, petite hausse des valeurs par rapport à hier dans le quart sud-ouest. Il fera 10 à Bordeaux, Auch et Biarritz, alors que partout ailleurs, les thermomètres vont garder le même niveau que la veille.
Jean-Michel Gonaski, Météo France.